Bonjour Julia Kristeva.
Bonjour.
Merci d'être là aujourd'hui dans les studios de RCJ à Paris. J'ai de la chance de vous avoir parce que d'habitude vous êtes aux quatre coins du monde, donc très rarement dans
l'Hexagone,
la région parisienne, dans nos murs. Parce que partout dans le monde, vous faites des conférences, vous participez à des colloques, vous êtes invité, vous êtes publié dans le monde entier. Donc vous êtes vraiment une icône de la vie intellectuelle française qui s'exporte. Alors, j'ai adoré la présentation de votre grande interview dans le dernier numéro de Philosophie Magazine. Ça y est, je suis en haut et dès que je suis à la radio. Alors, Philosophie Magazine a fait un très grand entretien avec vous et il vous présente ainsi. Julia Kristeva a côtoyé toutes les grandes idéologies des 50 dernières années, tout en traçant sa propre voie singulière et plurielle. Mao, la psychanalyse, Solers, mais aussi le féminisme, la dépression et notre besoin de croire. Et beaucoup de traversées. Alors, pour regarder dans le rétroviseur cette année 2019, cette dernière émission de l'année, j'avais pléthore de sujets dont je voulais m'entretenir avec vous. Donc, on va commencer par un sujet qui nous tient à cœur, vous et moi, particulièrement en cette année 2019, les femmes.
Bien sûr.
Le XXe siècle a été celui de la plus grande révolution des femmes, où quand même l'égalité a été adoptée dans la plupart des pays occidentaux. Ne parlons pas des autres, parlons déjà des pays occidentaux. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, les femmes avaient été aussi, entre guillemets, égales des hommes, en tout cas dans les lois, et petit à petit dans les mœurs et dans la vie quotidienne. Pour la première fois, elles ont pu contrôler les naissances, contrôler leur corps. Donc, le XXe siècle a fait un grand bond en avant. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle, et depuis 2 ans, on voit un nouveau mouvement surgir qu'on n'attendait absolument pas, parce qu'on pensait que les choses étaient acquises. Comme dit Finkielkraut, et je suis totalement désaccord avec lui, « Vous, les féministes, vous avez tout gagné, donc arrêtez de vous plaindre », je cite plus ou moins dans le texte. Alors, pourtant, depuis 2 ans, on voit dans notre monde occidental, mais pas seulement, au Pakistan, en Inde, à la Mecque, en Iran, au Maroc, une montée des révoltes des femmes, souvent avec des hommes, accompagnées, suivies par des hommes. Donc comment est-ce que vous voyez ces 2 années assez spéciales du point de vue du féminin ?
D'abord, je suis contente qu'on termine cette année avec l'évocation du féminin et son destin historique aujourd'hui. Nous sommes souvent rencontrés ici avec vous, Annette, sur cette antenne, et c'est nécessairement le thème du féminin qui croise nos discussions, même si nous sommes sur beaucoup de champs. Il faut aussi le dire, parce que il y a ceux qui dénient la voix des femmes et il y a ceux qui l'enferment dans du féminisme et pensent qu'elles ne font que ça. Et apparemment, Finkielkraut était excédé par cet aspect des choses, ce qui n'est pas la vérité. En effet, chacune de nous a plusieurs chantiers. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec un livre que vous avez publié cette année, Chronique d'une onde de choc, où vous montrez combien il y a un avant et un après de ces phénomènes qu'est MeToo, Balance ton porc et cette révolte des femmes, nouveau style qui s'est manifesté et qui paraît ne pas être le féminisme tel que certains le comprennent, mais qui pour moi s'inscrit dans la grande vague du féminisme qui commence quand moi je dirais que ça commence à partir de l'homme préhistorique. J'étais invitée pour ouvrir le grand colloque de la Société psychanalytique mondiale, IPA, à Londres, qui est dirigée pour la première fois par une femme, Virginia.
Ah oui, c'est la première fois.
Oui, Virginia Ungar, c'est une psychanalyste argentine de formation kleinienne et très freudienne, et qui m'a demandé de prononcer le discours inaugural, prélude à une éthique du féminin. Et le congrès était sur le titre The Feminine. Évidemment, on parle en anglais dans ces cas-là. Et je me suis dit, mais comment on peut définir le féminin? C'est un inconnu. Comme il y a le boson de la physique, particule qui est nécessaire mais qui fuit partout, le féminin, c'est le boson de l'humain ou de l'inconscient. Donc, j'ai trouvé quand même une façon de le faire. Et je me suis rendu compte que dès le début, dès les hommes préhistoriques, les fameuses grottes de Chauvet, si vous le souvenez, là, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, mais il y a un immense sexe féminin surmonté d'un bison et un tas de bêtes qui courent, qui représentent le malheureux homme avec ses mains ou ses graffitis qui dessinent vaguement une figure masculine. Mais le féminin est présent en tant qu'une source d'excitation, quelque chose d'innommable et qui tient le pinceau de l'homme préhistorique, qui n'est pas du tout un bonobo, mais c'est déjà l'homme culturel. Eh bien, cette fascination pour le féminin et qui pulse et qui essaie de s'imposer, qui s'impose sur les grottes dès le début, a eu beaucoup de temps pour se faire entendre et pour avoir du respect et du droit à la parité, comme on le veut aujourd'hui. Et on a cru, peut-être certains ont cru, que après les suffragettes du 19e siècle anglais, après Simon de Beauvoir, où tous les hommes et femmes sont des frères, elle était pour une sorte d'universalisme des sexes et d'égalité, comme vous disiez tout à l'heure. Après, psychanalyse politique, moi j'appartenais plutôt à ce mouvement, on essayait de voir quelle est la différence de la sexualité féminine. La question était ouverte, il n'y avait plus rien à faire, il n'y a qu'à faire des lois, des familles, mono, hétéro, etc. La chose était réglée. Or, on s'est rendu compte qu'il y a deux sexes et qu'ils ne s'entendent pas forcément, et que non seulement ils ne s'entendent pas, mais que le féminin devient un objet d'exploitation, de violence, de suppression, je dirais presque de mise à mort. Moi, j'étais sensible à cela avant l'explosion de cette figure piteuse de Weinstein et la figure fatale de Ramadan qui ont violenté des femmes de manière scandaleuse. Mais le fait que le corps féminin continue encore de nos jours à être un objet de violence, de haine et de mise à mort. Et j'ai reçu le prix Hannah Arendt que j'ai donné aux femmes afghanes qui s'immolent par le feu parce que il y a le mariage obligatoire, forcé, et parce que dans les familles, elles sont battues, elles sont ignorées, elles sont opprimées. Et certaines survivent, donc il faut s'occuper d'elles. Donc
ce thème,
ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas vivre, ils sont jetés comme des objets hors société. Mais et aujourd'hui encore, parce que je suis très impliquée aussi dans tout ce qui est droit des femmes, il y a 700 millions de femmes qui sont mariées par force dans certaines parties.
700 millions.
Qui sont mariés par an, paraît-il. Bon, j'ai pas fait les calculs, mais c'est sur le site des droits de l'homme de l'ONU. Et 130 millions de jeunes filles excisées sous la férule de certaines religions, de croyances. Mais le monde est loin d'avoir compris que la femme est l'égale de l'homme. Et cette histoire pitoyable de viol, comme vous dites, des stars sur canapé qui existent depuis peut-être que le cinéma est fait, mais qui s'est aggravé, qui a pris des proportions et qui est devenu audible et visible, grâce à Internet on a pu en parler, eh bien c'est un moment très important, en effet une nouvelle étape de l'émancipation des femmes pour poser la question de la sexualité féminine, du droit à la sexualité féminine, à la volonté des femmes dans la sexualité féminine et à la possible harmonisation de l'homme et de la femme. Est-ce que c'est le couple est possible? Est-ce qu'on est on est livré à la bête humaine sans que personne ne puisse? C'est pas l'affaire de l'État, c'est pas l'affaire des partis, c'est une affaire d'éducation. Mais qui est là pour s'y intéresser? Ou est-ce que il est possible pour ceux qui se considèrent humanistes et qui ont une certaine vision humaine de la politique travailler pour que non pas le paradis, mais surtout pas l'apocalypse, s'organise au niveau de la relation hétérosexuelle? Le problème, c'est l'hétérosexualité.
Alors, Julia Kristeva, Vous voyez à quel point ce nouveau mouvement est nouveau, justement, parce que ça dépasse l'étiquette, le cliché féminisme. Ce que vous venez de dire, c'est ça, c'est qu'on avance vers la question de l'hétérosexualité, la question de l'homosexualité étant quand même bien, pas digérée, mais...
Qui a été traité et même légalisé d'une certaine manière.
Il y aura enfin du temps
à être compris, mais c'est en route.
Et banalisé, toutes les choses pour lesquelles on s'est battu dans les années 70 du siècle précédent. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans les nouvelles manifestations, ça n'est pas un nouveau féminisme, c'est des mouvements où il y a beaucoup d'hommes qui viennent. Il y a une majorité de femmes dans les manifestations. Mais même là, les dernières manifestations à Paris contre les violences contre les femmes, il y avait énormément de jeunes et de jeunes hommes et de jeunes des étudiants, des lycéens, etc., qui étaient dans le mouvement. Donc c'est effectivement, maintenant on peut enfin poser la question de l'hétérosexualité. C'est ça qui est intéressant.
Moi je crois que en lisant votre livre, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant après avoir constaté cette montée immonde de féminicide aussi, le viol des femmes et le meurtre des femmes, parce que de pulsions de mort qui s'emparent de
certaines
personnes.
Comment est-ce que vous analysez, Julia, les chiffres encore de 150 quelques de meurtres de femmes par leur ex-mari ou conjoint cette année en France?
Mais écoutez, moi je pense que c'est dû à la même, c'est l'envers du phénomène du viol et d'abus sexuels. C'est-à-dire que le corps féminin est perçu par certains comme un objet de menace. Elles ont pris la liberté. Non seulement elles sont belles, elles travaillent, elles jouissent, mais elles peuvent nous quitter. Et c'est insupportable.
Elles sont indépendantes économiquement.
Et donc elles donnent l'impression de dominer un sexe qui a été éduqué depuis la nuit des temps d'être le mâle dominant, quelles que soient les mises en garde des religions, de l'éducation, etc. Mais ça reste là, au fond. Et la question se pose à partir de là, comment éduquer aussi les petits garçons, les hommes, certains en effet nous rejoignent dans ces luttes. Le problème de MeToo et de le féminicide, pour moi, a posé deux questions. J'ai répondu un journal, je crois que c'était Les Incorruptibles, en disant qu'il faut absolument redonner la parole aux femmes et pousser vers une plus grande créativité dans la parole concernant l'expérience sexuelle, le viol, comme on le fait aujourd'hui. Certaines, on les connaît toutes, celles qui s'exposent et qui essayent de donner de la parole à cette souffrance. Mais en général, la culture au féminin, les artistes, les écrivaines, les sages-femmes, les soignantes, enfin, la créativité féminine, de manière à ce que cette image de la femme objet et cible de meurtre ne soit pas celle qui occupe le devant des écrans, mais qu'on sache que la créativité féminine est là, la vitalité féminine est là. J'appelle ça le génie féminin.
Et justement, cette vitalité féminine...
Et puis, il y a à côté, l'autre problème, c'est comment les deux sexes peuvent vivre ensemble. Il y a deux chantiers que votre livre ouvre. La créativité des femmes et créer une harmonie pensée avec deux indépendants dont personne ne domine l'autre, mais il y a des contradictions, il y a des difficultés. La problématique de l'hétérosexualité.
Alors, le chantier est ouvert, comme avait dit... dans son dernière interview, Françoise L'Héritier, qui était un grand anthropologue, qui a dit pour la première fois dans l'histoire, justement, ce chantier de la vraie remise en cause du patriarcat est ouvert, et elle dit ça prendra beaucoup de temps.
Si on dit que c'est contre le patriarcat, ça peut donner l'impression que les femmes doivent s'insurger contre le pouvoir masculin. Cette insurrection ne peut avoir lieu que si on précise la différence des sexes et le bénéfice qu'on peut tirer du vivre ensemble. Vous savez, il y a un écrivain de la fin du 19e siècle que Proust cite beaucoup, Alfred de Vigny, qui dit « Les deux sexes mourront chacun de son côté ». Et Proust rigole beaucoup là-dessus, ça lui paraît pas impossible. Et moi, je fais le pari, et ça paraît aujourd'hui impossible, mais qu'il est possible que les deux sexes ne meurent jamais, chacun de son côté. Parce que déjà, ils sont pas deux, mais au moins quatre. Il y a le féminin et le masculin des deux côtés. Et que peut-être ils peuvent, en posant le problème de l'hétérosexualité, produire une culture nouvelle. Donc
Je
c'est
dis ça,
ça
c'est
doit
qu'on
être
a une
l'idée.
époque où justement cette question est enfin posée. Par-delà les questions d'égalité économique, quantitative, etc., on pose cette question-là de comment vivre ensemble, ce qui est quand même nouveau. C'est ça que je trouve passionnant.
Moi, je trouve que c'est parce que il faut dire que le couple, on en a marre, on vomit
Ouais.
des opéras de couple de toutes les télévisions américaines et autres. Lacan parlait de la comédie hétérosexuelle, d'accord, mais le couple hante les imaginaires, y compris des couples homosexuels, genre, etc. Et comment faire pour qu'il ne soit pas une comédie ni un apocalypse, mais un problème pour les deux. Et donc, c'est très bien que les hommes participent à notre manifestation aujourd'hui, mais il y a un grand travail éducatif, culturel, psy à faire à ce
Ça
sujet.
commence par marcher déjà ensemble dans les
Voilà.
rues à Washington ou à Paris ou en Espagne contre le viol. Dans les grandes manifestations contre le viol en Espagne, à Madrid, Barcelone, étaient quand même mixtes. Et ça, pour moi, c'est nouveau parce que nos manifestations des féministes des années 70 n'étaient absolument pas mixtes. Au contraire, il y avait un refus absolu que des hommes participent. Donc on est rentré dans une autre époque. Alors, Julia Kristeva m'avait dit aussi que Freud avait évolué sur la question des femmes.
Écoutez, moi j'ai relu à l'occasion de ce 51e congrès, j'ai relu le dernier Freud et j'étais impressionnée par les derniers textes qu'il a écrits sur les femmes, sur le féminin, après la mort de sa mère, où il insiste beaucoup sur la bisexualité féminine. Il y a des pages presque prémonitoires de la théorie du genre. Ce n'est pas du genre, c'est toujours du féminin, mais avec une grand accent mis sur l'aspect masculin du féminin. L'évolution de la petite fille que j'ai développée à partir de là passe par un double Œdipe. D'abord l'Œdipe avec la mère, ça on n'avait pas dit assez. Le petit garçon aime sa mère, mais la petite fille aussi. Et donc, il y a une sorte de deuil permanent de la mère, mais en même temps de complicité avec le maternel que porte la petite fille. Elle se détache de la mère, elle aime son père, mais ça suppose déjà une grande complexité de la vie psychique de la femme, féminine avec sa mère, masculine avec son père et vice-versa. Et après, elle va devenir mère elle-même. Donc, il retrace une complexité de la vie féminine qui n'apparaissait pas dans les premiers textes et que les successeurs de Freud ont développé. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'il s'est rendu compte qu'enfermer la femme au désir, au sens de besoin, de satisfaction, plaisir, sexualité, on va dire organique, hystérique, y compris le langage, parce que
Hystérique,
l'hystérie
c'est lui
parle
qui le
beaucoup.
disait,
Voilà,
c'est
c'est lui qui,
Freud.
c'est voilà, mais au lieu d'enfermer la femme dans cette vision hystérique et du langage et du corps, il dit à Marie Bonaparte cette phrase formidable, mais que veut une femme? Was will das Weib? Que veut n'est pas que désir. Il se pose les questions d'un féminin qui a des idéaux, des projets, des vertus
Ça,
morales,
c'est à la
des
fin de sa
interrogations.
vie.
Ça, c'est la phrase est dans les années 20, mais dans le dernier texte, il insiste là-dessus et il semble dire que cette mobilité du féminin, son implication dans les questions des désirs, non pas seulement au niveau du corps, mais au niveau du social, au niveau du projet historique, etc., que veut une femme pour sa vie, pour la vie des humains, tout ça change la conception et de la psychanalyse et le destin de la civilisation. Vous savez qu'il parle du malaise de la civilisation. Il semble dire qu'on ne pourrait pas aborder le malaise de la civilisation sans aborder cette transformabilité du féminin qui pourrait peut-être être antidote. C'est ce que je déduis en lisant, en ma façon, évidemment, je mets beaucoup de mien là-dedans. Il y a ça du dernier Freud, et j'étais ravie de voir que Simone de Beauvoir, qui n'était pas une pro-psychanalyste dure et pure, même si son héroïne Anne est une de Jill Mandarin, est une psychanalyste, mais elle a écrit dans un de ses derniers livres que Freud était un des grands hommes de ce siècle et qu'elle est le plus adoré. Et je trouve que quand elle dit « on ne naît pas femme, mais on le devient », ça rejoint cette idée du dernier Freud de la transformabilité du féminin, qui n'est pas une adaptabilité quand même, on lui dire, mais qui est un changement perpétuel. Malheureusement, les frontières sociales, le chômage, les contraintes ne permettent pas à chacune d'accomplir cette mutabilité, cette transformabilité, et beaucoup s'arrêtent dans des dépressions ou autres somatisations, mais beaucoup d'entre nous aussi parviennent à dépasser ces fardeaux, à les porter avec elles-mêmes aussi, et à une créativité qui apporte quelque chose à la vision de l'humanité qui reste dans l'ouvert.
C'est en ça que Simone de Beauvoir est toujours moderne, c'est parce qu'elle a théorisé l'idée qu'une femme pouvait sortir de la fatalité de sa condition de femme.
Elle est toujours en mouvement, elle est un devenir. Moi, je l'utilise beaucoup, même si on constate qu'elle est moins enseignée, et finalement, à l'étranger, peut-être un peu plus qu'en France. Mais quand on a créé ensemble, Annette, le jury Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. On avait eu une idée de répondre à celles qui disent « mais si c'est mon choix de porter la burqa ou le tchador », en essayant de manifester une espèce de féminisme dans ce qui est pour moi une soumission totale et inacceptable. Et pour ne pas les attaquer frontalement, parce que dans ces choix, ces filles expriment beaucoup de désespoir et beaucoup de souffrance, je vais proposer qu'on essaye de lire Simone de Beauvoir et sa définition de la liberté. On n'est pas libre quand on choisit, c'est peut-être un degré zéro de la liberté. La liberté, c'est pas un yaourt et un pain dans un étalage. La liberté, c'est se transcender avec les autres. Et elle dit très bien, se transcender pas seulement au-delà, certains le peuvent avec une entité spirituelle, innommable et tout ce qu'on peut imaginer dans l'histoire de religion, mais se transcender avec les autres ici, dans l'histoire. Donc, comprendre l'altérité, vivre avec cette altérité qui commence par l'altérité homme-femme, entre autres, peut-être basiquement. Eh bien, ça, on l'a proposé à l'éducation nationale, ils nous ont dit, mais c'est très bien, on va mettre ça à l'école, à l'étude des écoles, c'est entré dans un tiroir, c'est pas sorti. Il faudrait proposer ça, Simone de Beauvoir, sur la liberté des femmes comme transcendance de soi.
Comme vivre ensemble, ce que vous dites sur la société. Alors, Julia Kristeva, nous terminons quand même cette année 2019 par un débat dont la France est habituée, qui clive. C'est la question de Roman Polanski et de son film J'accuse. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit juger une œuvre par rapport à son auteur? Est-ce que l'auteur peut être complètement dissocié de l'œuvre? Est-ce qu'il faut boycotter ou pas boycotter le J'accuse de Polanski? Ça clive, c'est-à-dire il y a deux affaires. Il y a l'affaire Dreyfus de J'accuse qui a coupé la France en deux. Et maintenant, il y a l'affaire Polanski réveillée par l'affaire J'accuse et du capitaine Dreyfus qui divise, en tout cas dans les débats intellectuels. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, est-ce qu'il faut distinguer l'objet culturel de l'auteur? Est-ce qu'il faut mettre en cause Polanski séparément de ce qu'il fait? Enfin, quelle est votre position sur cette polémique qui nous agite en cette fin 2019? Donc, c'est Julia Kristeva qui nous donne son point de vue sur ce débat.
Écoutez, moi, j'ai rencontré ce problème, pas dans l'affaire Polanski, que je ne vais pas éviter, j'y reviens, mais je pense que c'est une question qui peut traverser beaucoup de champs culturels de notre héritage, notamment français, mais européen et peut-être plus largement que cela. C'est-à-dire la liberté esthétique et le champ moral, morale et politique.
On est en plein dedans, là.
Voilà. Et moi, je l'ai rencontré autour d'une figure autrement brûlante et scandaleuse, Céline. Et j'écris un livre qui s'appelle « Essai sur l'abjection ». Quand on dit « abjection », on pose déjà une position. Quand on dit que c'est abject, ça ne veut dire pas que j'adore ça. Et on exprime une violence, un rejet, une indignation. Et en même temps, on essaye de comprendre ce qui ne veut pas dire accepter, mais essayer de comprendre comment c'est arrivé pour que ça ne se répète pas. Alors ça, c'était pour Céline.
Bon, c'est contenu. Dans le cas de Céline, tandis que dans le cas de Polanski, son film n'est pas une abjection, tout au contraire.
Non, voilà. Non, mais j'arriverai à Polanski. Mais je prends cet exemple parce que la problématique est importante. Et je pense que quand une radio comme la vôtre, qui n'est pas dans la rapidité, qui nous donne une manière de réfléchir, peut toucher des sujets de fond. Je pense que la critique littéraire, mais la critique journalistique aussi, se doit d'être sévère et en même temps compréhensive. Moi, par rapport à Céline, j'ai pu donner des analyses très fine, peut-être insatisfaisante, mais que j'essaie de faire de manière approfondie, de sa phrase, de ses personnages, et montrer comment il était allé au fond de la pourriture humaine, du féminin, du masculin, de la guerre, et fasciné à partir de cela. Et ne pas refuser, ne pas mettre une voile sur cette vérité humaine qui est apportée par des êtres comme lui. Mais cette affaire, cette espèce de descente dans les enfers de soi pour pouvoir les écrire et les partager avec les autres, s'accompagne d'études de crispation, de violence, de destructivité qui, dans le cas de Céline, ont pris la forme d'antisémitisme délirant. Et aimer les livres de Céline ne veut pas dire qu'on accepte sa position. On peut tenir un double discours sans que ce soit du jésuitisme ou je ne sais quel évitement. Alors, pour revenir à Polanski, je pense que son œuvre est à dissocier de son comportement d'une manière analogue et bien sûr différente. Parce que comme vous dites, dans les œuvres, et dans certaines œuvres de Céline non plus, il n'y a pas de positions qui sont moralement inacceptables. Et dans le film sur J'accuse que j'ai vu, on peut le critiquer, mais pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, il n'est pas complet. On ne parle pas de Peggy, on ne parle pas de Bernard Lazare. Il y a tout le contexte de l'affaire. Dreyfus n'est pas mise en scène, qui pourrait mieux faire comprendre l'antisémitisme français. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce mouvement abuseur de l'homme Polanski que je n'irai pas voir le film J'accuse. Et cette attitude doit se poursuivre en mettant dans les mains de la justice le suivi des affaires, pour autant que c'est possible, et on se rend compte que c'est pas toujours possible, c'est dépassé, mais peut-être faire parler des femmes qui ont eu à subir cela, le faire entendre lui, et ne pas mettre fin à une créativité qui peut donner des œuvres qui pour moi sont, J'accuse encore une fois, je trouve pas que c'est un grand chef-d'œuvre, mais c'est un film absolument indispensable pour faire comprendre à des jeunes et moins jeunes des arcanes, des choses complexes de l'affaire Dreyfus, à un côté pédagogique absolument indispensable. J'étais un peu triste de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de monde quand je suis allée, mais c'était peut-être un samedi.
C'était numéro 1 en France. Hein.
Peut-être, mais quand je suis allée très
c'était
tard.
C'était le film
tant mieux.
En tête du box-office
pendant
depuis
peu de temps.
Ah non,
ça continue.
Il y a déjà plusieurs millions d'entrées.
Tant mieux.
Gens sont allés le voir.
Et
moi, ma position
continuer.
D'ailleurs rejoint la vôtre. Moi, je pense que les gens vont voir le film s'ils ont envie de le voir, et c'est très bien comme ça.
Je dirais plus. Moi, je crois que l'éducation nationale doit utiliser ce film pour apprendre aux jeunes français, et de ceux de banlieue en particulier, qu'il y a une culture française particulière, qu'elle s'est battue contre un certain nombre de dérives, et c'est fait de manière calme, explicative, sans prendre position, et ça peut être un objet, encore une fois, pédagogique extrêmement important.
Quel que soit le jugement qu'on porte sur le cinéaste.
Voilà.
Écoutez, comme d'habitude, on est d'accord. Alors, Julia Kristeva, j'en profite pour rebondir sur la culture et l'Europe, parce que je sais que vous êtes, comme nous tous, assez inquiète sur l'avenir de l'Europe. Vous avez parlé de chaos, l'Europe est chaos, au sens de la boxe. Mais vous voyez quand même une possibilité de refonder cette Europe autour de la culture.
Mais écoutez, moi, je suis en effet très
européenne,
gênée.
Déjà.
Oui, voilà, mais très gênée et triste du destin de l'Europe de cette année, parce que quand on s'est vu pour préparer cette émission, on s'est dit on va parler des femmes. Là, c'est triste, mais il y a un espoir parce que il y a de nouvelles pistes qui s'ouvrent, les femmes se réveillent, la relation femme est posée sur la table, etc. Et sur la question de l'Europe, je suis triste de ce côté chaos que tout le monde ressent de l'Europe. Et en même temps, il y a des raisons qui sont très faibles en apparence, mais qui sont souterraines. À savoir que tous ceux qui pestent contre Bruxelles se sentent européens. Ils se sentent européens parce qu'il y a une culture européenne qui passe par le multilinguisme et qui passe par la musique, par la littérature et aussi par une idée qui est sous-jacente à la culture européenne et qui est l'idée de l'identité qui, selon moi, est unique en Europe. Elle n'existe nulle part ailleurs.
Alors, à quoi ça ressemble l'identité européenne ?
Alors, ça semble à une phrase que vous connaissez, qui est une expression biblique, « Ayez à chair, ayez ». Je suis celui qui est. C'est une identité qui ne se définit pas. Il y a un être, j'en fais partie, mais je ne sais pas ce que c'est pas la question, parce que c'est une question, ça deviendra une question. Et tout au long de son histoire, le peuple juif essaye de répondre à cette question en se battant, en faisant des exodes, des exils, des retours. Et c'est ce mouvement-là est l'identité. Autrement dit, l'Europe est l'héritière d'une notion de l'identité, non pas comme culte, mais comme interrogation, comme voyage et comme interrogation. J'appelais mon livre, parce qu'on m'a demandé de faire un livre sur moi, j'appelais « Je me voyage ». Bon, ça rejoint un peu cette idée. Évidemment, dans les cultures européennes, cette notion d'identité est passée par la culture de manière justement non identifiante, mais interrogative. Le droit à poser les questions et met le point d'interrogation. Vous voyez ça chez saint Augustin, quand la prière chrétienne dit « Questio mihi factus sum », je suis devenu question à moi-même. Chez Montaigne, le moi de Montaigne est une espèce de morceau si informe que chaque pièce fait son jeu. Une contexture si étrange et multiple que chaque pièce fait son jeu. Donc, c'est une espèce de multiplicité, multiface. C'est celui qui nie de Faust, de Goethe, et c'est Freud qui demande la mise en analyse pour se trouver, mais on ne se trouve jamais, c'est infini l'analyse. Donc, c'est cette idée de l'identité comme dépassement de soi et typiquement européenne, et c'est ça à la fois notre faiblesse, parce que dans le monde du marché qui verrouille la politique et d'Internet qui fragmente le politique et dans un monde sans autorité et sans exemple, la question ne soulage pas, elle angoisse. Mais c'est les hommes et femmes de culture qui donnent des réponses. Et il faudrait faire... J'étais au Conseil économique et social du temps de Delevoye, qui n'est pas seulement le personnage qu'on voit maintenant, mais qui a pu gérer ça de manière assez souple. Eh bien, j'avais proposé qu'on fasse un forum culture. Il existe une culture européenne et que ce soit quelque chose comme une fondation, ou comme une maison, ou comme un collège de France, mais le collège des cultures européennes, et que les peuples européens, avec les cultures nationales et les cultures individuelles en musique, en littérature, en cinéma, s'expriment pour donner corps à ce sentiment d'être européen, mais dans le mouvement et dans la créativité.
En gardant l'identité
des langues nationales. De chaque culture.
Mais alors, quand on dit les vieux démons européens reviennent, on parle de l'antisémitisme, de l'intégrisme, etc. Est-ce que l'Europe a quand même connu au XXe siècle les pires génocides de l'histoire ? Est-ce que ça vous fait peur quand on dit les vieux démons reviennent, en particulier dans les pays anciennement communistes?
Moi, je crois que c'est une réalité, on ne lui dit pas assez. On lui dit en sourdine parce qu'on ne veut pas décourager les gens. Et je ne suis pas sûre que dans les écoles et sur les chaînes de télévision, on met en garde les gens contre cela. Dans les pays communistes, en effet, c'est une ruée vers les nationalismes et l'antisémitisme. Les gens qui viennent, moi j'ai coupé les liens depuis longtemps avec mon pays natal et pour des raisons
La Bulgarie.
diffamatoires. Oui, la Bulgarie, oui, c'est un sujet très douloureux sur lequel je ne souhaite pas revenir aujourd'hui. Mais on trouve ça dans tous les pays européens pour des raisons liées au communisme, parce qu'il y avait dans le communisme quelque chose qui exalter le national sans le mettre en question comme contrepoids au dogmatisme. Et il y a les communistes marxistes, on est tous universels, il n'y a pas de nation. Et quand ils commençaient à se libérer, ben non, il y a des nations. Donc il y a eu un moment comme ça où les deux vivaient ensemble. On le voit maintenant en Chine. La Chine est à la fois très totalitaire et très nationale, nationaliste. Mais la mise en cause du national, ce que je suis en train de dire et qui n'est possible que parce que il y a eu le Dieu juif et il y a eu le mouvement des Lumières qui a fait de ce Dieu un objet de connaissance, nous pouvons porter au monde la capacité de mettre en question ces crispations identitaires. Et quand je dis faire une université ou un collège de culture européenne, ce sera aussi le lieu où on repose ces questions. Qu'est-ce qu'un souverainisme? Pourquoi l'antisémitisme? Pourquoi on n'ose pas dire ça?
Et
Ça,
donc,
une partie de la gauche française a peur de poser
voilà.
ces
Donc, Julia,
questions.
vous pensez quand même qu'on peut justement dépasser l'Europe, la capacité de surmonter ce retour des vieux démons dont on parle, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie?
Non seulement je le pense, mais je compte là-dessus. Parce que si ça ne se fait pas en Europe, ça ne se fera pas ailleurs. C'est l'Europe Philippe Solers se parle beaucoup de la France moisie, et on peut dire ça de l'Europe. Malheureusement, on identifie son œuvre à ce texte, il y a autre chose aussi. Mais on peut dire qu'il y a une moisissure de la France et de l'Europe. Mais en même temps, comme on dit, la France et l'Europe sont à la pointe de ce moisi, parce qu'elles savent l'élucider. Nous avons la capacité de faire le débat. Nous avons des universitaires, des artistes, des écrivains qui sont capables de mettre ça en question. Non pas pour faire table rase, mais pour ouvrir de nouvelles voies. On ne sait pas lesquelles. Le
Donc
texte.
l'Europe n'est pas foutue, voilà.
L'Europe n'est pas foutue parce que c'est un forum de débat. Et ça n'existe pas en Amérique, surtout pas avec M. Trump.
Non.
Il y a quand même des forces dans les universités, dans certains médias, mais qui sont maintenant en souffrance, à mon sens. Ça n'existe pas dans le monde arabe, dans le monde de l'Inde, dans le monde de la Chine. C'est les
Africain non plus.
héritages de la culture gréco-judéo-chrétienne et sa rupture avec la Renaissance et les Lumières. Et si on ne vit pas notre héritage, là aussi, il y a une question dont vous avez évoqué l'importance dans mon travail au début, c'est comme vous le savez, Annette, moi je me définis comme humaniste, mais humaniste qui a rompu le fil avec la tradition, tout en sachant qu'il ne faut pas en rester là, mais il faut reprendre la tradition, être capable de la penser, avec Freud, avec les sciences humaines, avec notre propre histoire personnelle, avec l'histoire de l'art et de la littérature, mais surtout ne pas jeter le bébé avec l'eau sale. Ce qui veut dire s'approprier la Bible, les évangiles, le Coran, les Védas. Et faire de cela une traversée vers on ne sait pas quoi. Dans le texte que vous avez évoqué, l'entretien avec Philosophie Magazine, j'ai dit qu'on est au XIIIe siècle, où un philosophe que j'aime beaucoup et que Hannah Arendt cite souvent, Dan Scott, dit « La vérité n'est pas dans les grandes idées, on n'en a plus. » J'ajoute, hein, on n'en a plus. « N'est pas dans la matière, elle est opaque, je l'ajoute aussi. Elle est dans cet homme-ci, dans cette femme-là. » Dans la singularité. Et donc, on en est un peu là. Des initiatives, on les demande. Des désirs de rencontre, on en demande. L'Europe est ce lieu de demande et de débat, de rencontre. La rencontre est déjà un dépassement. Et la Renaissance est à venir. On ne la voit pas encore. Mais si elle ne se produit pas ici, elle ne se produira pas ailleurs. Ailleurs, c'est le transhumanisme. Bon.
Donc on va faire en sorte qu'elle se produise ici. Mais alors, avant de terminer ce survol de 2019, revenons en France, parce que vous avez quand même regardé ce qui s'est passé, même si vous n'êtes pas beaucoup là, parce que vous êtes partout, avec les gilets jaunes, les grèves, parce que vous parlez de souffrance, Julia Kristeva. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a une vraie souffrance qu'il faut regarder en face en France aujourd'hui?
Je crois que on parle beaucoup de cette révolution anthropologique qu'est Internet et qui a donné à chacun accès à une histoire, à une mode de vie qui s'étale à travers les siècles et qui présente beaucoup de possibilités. Et chacun veut être à la hauteur de ses capacités infinies. Donc, ça suppose l'éveil de beaucoup de désirs. Et en même temps, cette révolution anthropologique, avec chacun qui se lance vers une multiplicité de désirs, est freinée par un monde brimé par la finance, qui creuse les inégalités. D'où la désertification, d'où le manque d'infirmières, d'où la fermeture des pharmacies, etc., etc. Et donc, l'être humain est à la fois lancé vers l'infini de ses capacités et freiné dans les réalisations, d'où la souffrance et l'absence d'idéologies fantaisistes parfois, et qui se sont souvent avérées totalitaires, pour lui donner une issue. Le paradis, disait Voltaire, qui se moquait de ses idéologies, le paradis est là où je suis. Mais là où je suis, c'est je n'ai que 1000 euros et pour aller acheter pour Noël, il faut beaucoup plus. Donc, cette souffrance ne trouve pas d'explication et ne trouve pas d'issue. Elle prend la forme d'une colère explosive. Et la politique ne lui répond pas.
Elle pourrait,
elle aurait pu si elle propose un projet politique. Oui. On n'a pas de projet politique. On voit combien maintenant dans le dialogue entre les syndicats et le gouvernement est en difficulté. Le projet politique viendra, et c'est pour ça que d'une certaine manière, tout en voyant les difficultés du gouvernement actuel, je dis il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de recréer le dialogue et de trouver des solutions qui viennent de toutes les parties en souffrance. Et ça, c'est l'enjeu de la démocratie. Ça risque d'être long et je pense que l'année 2020 ne nous promet pas de paradis qui chante, du moins au début. Mais c'est la seule issue. Et la CFDT tienne sur la souffrance qu'il faut reconnaître, je la comprends. Il faut trouver aussi les moyens pour faire face, les moyens économiques, il faut trouver de l'argent. Le Premier ministre tient à ses dogmes financiers. Il faut trouver, peut-être lâcher de l'est de l'un et de l'autre et trouver la bonne compromission.
Mais il faut peut-être changer de priorité aussi, parce que de l'argent, on est un pays riche quand même, et l'Europe est aussi très riche.
Voilà.
Il faut peut-être changer les priorités financières, mettre de l'argent.
On pense aussi qu'il y a de l'argent de côté, qu'on peut le prendre aux riches. Moi, j'exclus pas cette hypothèse. On voit le clan Piketty et Bozio qui vont de ce côté. Mais peut-être qu'il faut qu'ils nous proposent leur modèle et que nous, pauvres électeurs, on puisse avoir tous les modèles possibles et voter sur la pluralité des modèles. Mais c'est ça aussi la faiblesse et la richesse de ce débat démocratique.
La faiblesse aussi, c'est la perspective de voter pour Macron, probablement, par défaut, c'est-à-dire pour ne pas avoir Le Pen, ce qui n'est pas un projet politique en soi.
Il faudrait que, par exemple, Macron, qui paraît-il était inspiré par le projet des retraites Piketty-Bozio, revienne à ce projet et qu'il mette dans la discussion les partis les plus extrêmes de la gauche qui donnent d'autres sources financières. Est-ce que c'est viable? Nous ne sommes pas capables de décider, vous et moi, aujourd'hui, etc. On n'a pas la capacité, on n'est pas là pour ça. Mais il faudrait que le peuple qui vote puisse avoir à sa disposition les différentes possibilités, oui.
Donc vous pensez quand même, pour terminer, Julia Kristeva, que 2020 ne s'annonce pas plus calme que 2019 sur ces fronts-là?
Je pense qu'elle s'annonce avec ayant élargi et bien identifié les conflits, avec un gouvernement et un président qui sont conscients, je crois, de la lourdeur de la tâche et j'espère qu'ils vont être bien espérés pour donner des satisfactions, même si la solution ne va pas définitive ni satisfaisante pour tout le monde. Alors, le moins mauvaise possible.
D'accord, alors on espère qu'ils vont être inspirés.
Et miser sur les hommes de culture comme vous et femmes, oui. Comme vous et moi, et sur l'Europe de la culture. On parle beaucoup de l'Europe verte, et je suis tout à fait, on n'a pas parlé de cela parce que d'autres en parlent, mais ça fait partie de la culture, mais ici, elle n'est pas que verte, elle est culturelle, l'Europe. Et il faudrait donner beaucoup de place et de voix.
Le vert ne suffit pas, on est d'accord.
Le vert ne suffit pas.
Ça suffira pas, on veut vert culturel. Alors, j'étais avec Julia Kriseva. Je rappelle quand même que vous avez l'ensemble de vos livres, enfin une espèce de compilation qui va apparaître dans la collection très prestigieuse en Amérique, qui s'appelle
Library of Living Philosophers.
Voilà, c'est vraiment la bibliothèque des philosophes.
Vivant.
Le prix Nobel de philosophie, en quelque sorte, qui va sortir en anglais. Donc bravo, félicitations. Et on espère que vous revenez bien vite pour constater que finalement, il y a eu des inspirations et que les choses avancent et sortent un peu de la souffrance. Merci Julia Kriseva. À
Merci
très bientôt ici.
À très bientôt.